Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on reprend nos droits à 18h comme tous les jours de la semaine. Vous le savez, vous en avez l'habitude, on se régale, on parle de foot, on bouge les codes du football dans Roten sans flamme. Et on aime ça, on parle de l'actu, et il y en a beaucoup encore aujourd'hui, même si le championnat est fini. Il y a une finale de Coupe de France, il y a surtout une finale de Ligue des Champions qui s'annonce le 30 mai, la deuxième étoile. Et vous allez voir le plateau, elle ravit déjà tous les gens autour du plateau. À commencer par Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
Ça fait un an qu'on te dit c'est tout droit, on va pas s'arrêter avant la
finale. Pourquoi déjà t'as greffé au-dessus de ton cœur la deuxième étoile? Attends, calme, il y a un match à jouer. On va jouer quand même le champion d'Angleterre.
Là, comme l'a dit Dugas, il n'y a pas photo. Il y a trois classes d'écart entre Paris et Arsenal.
Non, il a abusé hier. Non, mais n'importe quoi.
C'est vrai. Allez, écoutez le podcast.
Bon, on est avec un qui l'a aussi presque gravé dans sa mémoire déjà. C'est la deuxième étoile. Hein, c'est Soulé. Diawara, salut Soulé.
Salut les gars.
Salut Soulé.
Salut Jérôme.
Ça va,
salut,
bienvenue.
Salut Jean-Mi.
Bah attends, on l'a pas présenté, on sait pas qui est
encore. Ah bah oui, la surprise, je peux aller. Excusez-moi.
Le dinosaure est sorti. Salut Jean-Michel Larquet avec nous.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Tout va bien. Bien. On se prépare pour la finale de la Coupe d'Europe.
Ah bah oui.
Et de la Coupe de France. Celle de ce soir. Vous saviez pas qu'il y en avait une?
Ah oui, la finale ce soir.
C'est quoi la fiche?
Aston Villa Fribourg.
Bravo sous les Ibos.
En plus, ils l'ont avancé à 18h la finale avec des champions. Pour toi, Jean-Michel. Ils ont dit bon, ça commence à être difficile quand les matchs finissent à 22h. Donc on va aller finir faire
ça. Ils savaient même pas qu'il y a une finale de Coupe d'Europe.
Si on le sait, on va en débattre.
Classé au-delà de la 10e place.
On va en débattre. Eh oui. Et c'est le débat de 19h30 a été suggéré par Jean-Michel Larquet ce matin. Il m'a dit, je te propose un débat. La Ligue Europa est-elle devenue une Coupe d'Europe au rabais?
C'est quand la finale?
Ce soir.
Ah bon?
C'est ça. Mais on vous le tease.
Tu sais, rigole pas, mais bon, on suit le foot tous les jours.
Ouais.
Mais c'est hier, j'ai vu la bande-annonce.
Ah, t'avais oublié?
Bah, complètement.
Ah bah écoute, c'est comme ça. Bah, on en débattra d'ailleurs à 19h30.
Soulé, c'est même... aussi, ils avaient oublié.
Soulé, il sait même pas qui
non, c'est. Je suis professionnel, je regarde.
Ouais.
Mon programme,
tu regardes le calendrier d'aujourd'hui.
Aston Villa.
Tu regardes surtout le conducteur de Roten sans flamme.
Grâce à Jérôme Roten, qui est une légende du foot mondial, on vous offrira un moment unique demain. Avec une interview exclusive du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, on l'a rencontré cet après-midi. Midi, Jérôme, au campus, le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain.
Exact.
Ça s'est bien passé.
Plus de 40 minutes d'interview, énormément de choses à en retenir.
Écoute.
On diffusera les premières pastilles à 18h45 dans le Halo Jérôme. Jérôme, tout ça.
On va envoyer la pastille.
Ça va être dingue.
La bande annonce, on est très bon. Oh là là.
Grand
soyez là demain.
Avec Ousmane Dembélé.
Oui, vous allez en apprendre des choses.
Il y a également un jeu magnifique en ce moment sur RMC, c'est le jeu du sélectionneur. Vous participez à la liste des 26 cadeaux pour profiter de la Coupe du Monde, à gagner des vidéoprojecteurs, des écrans, des barres de son, des maillots de l'équipe de France. Vous pouvez gagner la Super Totale, alors là vous avez que des cadeaux magnifiques. Vous gagnez le pack high-tech, le pack maison, le pack supporter, le pack jeu et le pack expérience. Vous assistez aux matchs amicaux de l'équipe de France. Vraiment, c'est un cadeau exceptionnel. Pour s'inscrire, il faut attendre le top inscription et envoyer liste par SMS au 732-16. Liste au 732-16. On profitera également de la Dream Team ce soir à 19h pour continuer notre série de Roten Examinateur. On dresse les bilans de fin de saison. Et Jérôme, ce soir, on va parler de ton club de cœur, l'AS Monaco. Ouais. Est-ce que Monaco doit tout changer? Saison galère, chaotique pour les Monégasques. Je pense que tu vas sortir la sulfateuse.
Il y a déjà des départs. Hein.
Il y a déjà des départs. Hein. C'est pas terminé. Alors, un été très chargé à Monaco. Ouais,
Damien Perrinel, il s'en va.
Ah, oh, c'est sûr?
Ah ouais, c'est un gros manque. Hein,
pour on verra, il fait partie du staff depuis longtemps.
Ah ouais.
Et puis à 18h30, un procès. Celui de Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lyon, qui se contente de la quatrième place. Une interview dans l'équipe ce matin.
C'est beau.
C'est beau de se contenter de la quatrième place.
Ah ouais.
Ça n'a pas plu à un membre de la Dream Team de Roten sans flamme. Donc on en débattra à partir de 18h30 sur RMC. Ne loupe pas ce grand moment. Il est 18h04, vous écoutez RMC. Jérôme,
et alors
les Gunners ont brisé la malédiction.
Allez.
Score! Oh! Arsenal lead.
De renouer avec leur histoire, de renaître de leur cendre un petit peu comme un sphinx.
Come on, the Arsenal.
And he finds Kroupi, and Kroupi scores. 6 minutes to half time, and City's task has just got harder.
Trois matchs de la fin de premier, alors qu'il a fait quasiment cheval seul.
Gyökeres, c'est parti. Ferme son pied et l'ouverture du score pour Arsenal après 44 minutes de jeu.
Le club et les joueurs, Lucien, mais... étaient sur le toit du volcan.
Trossard, la frappe, oh, c'est dévié et c'est repris par Bukayo Saka. Les coachs onéreux qui demandaient hors jeu. Oblak qui avait réussi à arrêter la frappe de Trossard et Saka qui a parfaitement suivi.
History, we're gonna make history.
Mais de quoi tu me parles?
Ça fait 22 ans que les supporters des Gunners attendaient cela. Le 14e titre de l'histoire du club, le titre de champion d'Angleterre.
Bravo.
Décroché grâce au faux pas de Manchester City.
Allez-y, fêtez-le.
À Bournemouth, un partout. Il succède aux Invincibles de 2004. On en a longtemps parlé. C'est une malédiction à Arsenal. Les Gunners peuvent désormais se concentrer sur la finale de la Ligue des Champions contre le PSG dans 10 jours.
Ah, les anciens sont heureux.
Ah, bah, les anciens sont très heureux. Mmh. T'as eu quelques anciens au téléphone qui sont vraiment ravis.
J'en ai un qui est ravi. Ouais.
Ah, ouais, exactement.
Lui, il peut pas être rayé de la carte.
Hein. Ah, bah, non, mais ça, c'est sûr.
Non, il a sa statue. Il a sa statue devant l'Emirates.
Ça restera quoi qu'il arrive.
Thierry Henry, très fier. Non, mais c'est vrai qu'il me l'a écrit tout à l'heure, juste avant l'émission. Il m'a dit, je suis aux anges. Je suis très fier, enfin, 20 ans après, donc c'est beau.
Et Manu, il était content.
Manu, je sais pas,
il est. Manu, on le saura demain, il sera là.
Donc on verra comment il dormait, Manu.
Il dormait.
Oh, écoute.
Il y en a un qui a pas beaucoup dormi,
c'est courant, apparemment.
Clément Brossard qui est à Londres pour RMC Sport. Salut Clément.
Good evening everyone.
Ah, t'as bien senti ton reportage, Clément. C'était le moment d'aller à Londres. Félicitations. Raconte-nous cette nuit d'ivresse pour les supporters d'Arsenal alors.
Tu t'endresses.
C'était dingue, c'était fou. Vous l'avez entendu derrière moi, les feux d'artifice, notamment à l'Emirates Stadium. On a vécu une véritable nuit de folie à Londres. Énormément de tensions d'abord au Tollington Arms, qui est un des plus célèbres pubs des fans d'Arsenal, où se trouvait Mike.
Je pourrais pas être plus heureux. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. C'est une folie de vivre ça avec mes frères, mes amis. Quelle nuit. Allez Arsenal.
Come on, Arsenal.
C'est ensuite une marée humaine qui s'est ruée vers l'Emirates Stadium à quelques centaines de mètres, des dizaines et des dizaines de milliers de Gunners, comme on les appelle ici, de toute génération, de toute nationalité. Jim est australien.
C'est absolument génial. 22 ans d'attente et on est enfin là. Après tant d'années, c'est la plus belle nuit de ma vie. Je n'arrive pas à y croire.
Et puis il y avait des plus anciens, ceux qui ont connu beaucoup de titres avec Arsenal. C'est le cas d'Oliver notamment, plus de 70 ans, mais qui avait les yeux qui brillaient face à une telle liesse populaire.
C'est un nouveau merveilleux rêve. On en a connu quelques-uns et en voilà un autre. On savait que ça allait arriver et c'est génial. Au début de la saison, j'avais dit je veux la Première Ligue, peu importe le reste, je veux la Première Ligue. On l'a eu, maintenant on peut encore rêver.
Ce titre, Jérôme Benoît, c'était l'objectif numéro 1 depuis 22 ans avant même la Champions League et l'avoir remporté. Ça permet à Scott, que j'ai beaucoup aimé hier, de voir l'avenir en rouge et blanc mais aussi en rose.
La dernière fois qu'on a été champion, on était quasiment un club français et maintenant on la gagne à nouveau. La finale de la Ligue des Champions est un bonus. On peut y aller sans pression. On a gagné la Première Ligue, on va gagner la Ligue des Champions, l'Angleterre va gagner la Coupe du Monde et Tottenham va être relégué. Quelle magnifique été.
Oh, il a craqué lui.
Bon, le titre empoché, en tout cas, ça aura des conséquences sur la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu dans 10 jours. C'est du moins ce qu'assure le journaliste anglais Matthew Spiro.
Je pense que ça change énormément de choses. Déjà, les supporters d'Arsenal ne pouvaient pas penser à la finale avant que le titre soit joué. Et si Arsenal se faisait coiffer par Man City en championnat, je les voyais perdant à Budapest, peut-être même quelque chose comme on a vu l'année dernière contre Inter. Arsenal champion, ils ont une vraie chance parce que là, ils sont sur un nuage. Le fait de l'avoir fait avec quelques jours en plus pour se reposer, pour se préparer, je pense que ça joue beaucoup aussi.
Et Mikel Arteta devrait faire tourner ce week-end avec beaucoup de jeunes sur la feuille de match, beaucoup de cadres qui doivent être au repos. Mais le PSG prévenu, Jérôme, Arsenal est prêt à ouvrir une nouvelle ère remplie de trophées, gonflée à bloc pour remporter la Première Ligue des Champions de son histoire à Budapest.
Clément, merci beaucoup, magnifique reportage. On vous le remettra en podcast. C'est la une de Rotten ce soir. Arsenal champion d'Angleterre, est-ce que ça change tout pour la finale de Ligue des Champions 32-16 pour participer avec Soulé, avec Jérôme et avec Jean-Michel? On peut accueillir un homme heureux. C'est Julien Laurence qui est en direct avec nous. Salut Julien.
Ah, il a fêté le doublé déjà.
Et félicitations Julien, ça y est.
Non,
c'est
mais
bon.
Pourquoi tu as fêté le doublé? Pour l'instant, il n'y a qu'un titre.
Bah, quoi qu'il arrive, il y en aura deux, Julien.
T'es trop un escroc.
Bon, Julien, parle de tout ça. Toi, comment tu l'as vécu? Tu sais mieux que personne ce que ça représente pour Arsenal. C'est plus qu'un soulagement. Comment le définir, d'ailleurs?
Ouais, 22 ans, c'est long. Hein. C'est vrai, pour un grand club comme ça, c'est très long. 22 ans, il y a une génération de supporters d'Arsenal qui n'avaient jamais vu l'équipe gagner un titre de champion. Donc, c'est sûr qu'il y a eu de la pression ces dernières semaines. Il y a eu de la tension aussi. On s'est demandé à un moment, même nous, dans les émissions, chez nous, s'ils allaient pouvoir y arriver ou encore finir deuxième. Je pense qu'Arteta mérite beaucoup de crédit déjà, d'avoir su, quand il est arrivé il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant, il a complètement changé la culture et l'ADN du club qu'on avait perdu, que le club avait perdu, qui avait été perdu depuis le départ de Wenger, mais même depuis la mi-Wenger en fait, parce que même les dernières années de Wenger avaient été quand même plus compliquées. Et donc il a fallu aller rechercher une identité, une connexion avec les supporters qui n'étaient plus là. Je vais raconter un petit peu hier dans l'after avec les garçons, mais quand il est arrivé, une des premières choses qu'il a faites, c'est demander à chaque joueur d'écrire sur un bout de papier tout seul dans son coin un seul mot pour résumer, selon lui, l'atmosphère, l'ambiance dans le club, l'état d'esprit. Et tout était négatif quasiment. Tout le monde disait des choses très négatives. Donc il a fallu changer tout ça. Il a fallu aller chercher des joueurs. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, des meilleurs joueurs. Mais c'est vrai que quand tu vois la progression de l'équipe et la transformation sur les 6 dernières années, finalement, ils arrivent là où je pense qu'ils méritaient d'arriver.
Tu l'as félicité d'ailleurs, j'ai vu un de tes messages sur les réseaux sociaux. Tu mettais en avant Arteta, Saliba aussi. Il y a quelques joueurs que tu ressors dans cet effectif, notamment le défenseur français.
Ouais, pour moi c'est le meilleur défenseur du monde actuellement. Il aurait pu partir au lieu qu'il a prolongé. Il aurait pu aller dans quasiment n'importe quel gros club européen. Ils étaient tous là pour lui. Il a choisi de rester déjà parce qu'il a sa relation avec Arteta qui est assez spéciale. Il ne faut pas oublier, quand il est arrivé, c'est pas Arteta qui l'avait recruté. Rappelez-vous, il a dû partir en prêt. Il est revenu en Ligue 1 en prêt parce qu'Arteta ne le jugeait pas prêt pour la première ligue, pour l'équipe première d'Arsenal. Et il est revenu. Et c'est vrai que moi je trouve sa saison extraordinaire, sincèrement. Après, ce qui était intéressant aussi pour moi, au-delà d'Arteta, et je pense que c'est vraiment un très très bon coach, au-delà de Saliba, mais même aussi d'un Gabriel par exemple, d'un David Raya, de l'identité défensive et la structure défensive que cette équipe elle peut avoir. Ce qu'Arteta avait dit depuis le début, c'est ils gagneront quelque chose si tout le club va dans la même direction. Des propriétaires américains aux personnes qui sont à la cantine du club, dans les bureaux, aux gens qui s'occupent du marketing, mais aussi des billets, enfin tout le monde. C'est pas que l'équipe première, c'est pas un effectif de 25, c'est tout le monde en fait. Et ça s'était perdu un petit peu aussi. Et Arteta a su vraiment recréer cet esprit-là où finalement tout le monde au club, que tu sois important ou pas vraiment important, mais en fait tout le monde est important, aille dans la même direction, et c'est ça qui fait aussi la différence, je pense, même au-delà des joueurs et du recrutement et de l'argent dépensé.
Merci Julien, on te laisse.
Merci Julien, bravo.
T'es occupé par la Ligue des Champions et les interviews des joueurs. Débattons, messieurs, vas-y Jean-Michel.
Non, juste dire à Laurence que, effectivement, Laurence, les dernières années d'Arsène, les dernières années d'Arsène coïncidaient avec le déménagement dans le nouveau stade et que son budget de fonctionnement à l'époque avait été sérieusement érodé.
Ah d'accord, ouais. Donc il a des circonstances atténuantes quand c'était des purges, t'as raison.
Ouais. Bon, il est parti, ouais. Je voulais pas t'écouter.
C'est vrai qu'Arsène Wenger n'a pas fait un grand passage du côté d'Arsenal.
Si.
Effectivement, Jérôme.
Je pense qu'effectivement,
il n'a pas marqué l'histoire. Il n'a pas marqué l'histoire d'Arsenal. Bon, bref, passons à autre chose.
Non, mais
t'es ridicule de dire
c'est
ça.
Si demain,
on demande quel est le manager qui a marqué Arsenal et au cours des 50 dernières années, je sais qu'il sortira en premier.
Ça dépend de la génération, je vais te le dire, parce que moi, les dernières années, et je les commentais, les matchs d'Arsenal, et avec Wenger qui était à la tête, c'était horrible. En fait, ce club n'avançait pas. Et avec des anciens, il a été aussi infect. Grands anciens aussi, il a été infect.
Là, on va se fâcher sur Wenger.
Non, il ne faut pas retirer ce qu'a dit Jean-Michel, il a raison. Okay. Il y a une grosse dizaine d'années où il a été énorme à Arsenal. Bien sûr, écoute, je ne vais pas te dire que ça a été un petit manager. Pas du tout. Mais à la fin, en effet, il est resté. On se demandait pourquoi il restait. Tu vois, ce club n'avançait plus.
Bon. Allons-y sur le débat du jour.
Le stade, le déménagement, je veux bien. Sauf qu'ils ont quand même investi. Et lui était sûr de ses idées. Ça n'avançait plus.
Jérôme.
Je ne rebondis pas.
Ce titre de champion d'Angleterre décroché hier par Arsenal, ça change tout pour la finale de la Ligue des Champions, à ton avis?
Oui, ça change tout dans l'approche de la finale. C'est une certitude. Quand tu as la chance de gagner, de gagner et ce groupe a enfin gagné, t'es décomplexé. Et en fait, t'as l'envie, la soif de gagner. Encore, tu vois, parce que t'as un sentiment. On a eu la chance. Alors moi, j'aurais préféré gagner la plus belle des compétitions. Je l'ai pas gagné, mais j'ai gagné d'autres compétitions et Soulé aussi et Jean-Michel. Et c'est vrai que quand tu gagnes, mais putain, mais c'est une jouissance en fait.
C'est galvanisant, c'est grisant.
Non mais exact. Et déjà individuellement, mais surtout collectivement. Collectivement, et j'inclus forcément le staff. Technique, le staff médical et les dirigeants, parce qu'on
même
gagne
le tout, club, hein, dans gagne, le club ouais, aussi,
on gagne tous ensemble et la communion avec les supporters. Donc ça te donne une force supplémentaire et surtout une rage de vaincre encore plus forte. Parce que ce qu'on dit dans le sport de haut niveau, le plus dur c'est de rester tout là-haut. Et c'est de confirmer d'année en année, de match en match et tout. C'est ce qui a le plus dur. Et on l'a vécu aussi, tu vois. Alors après, pour rester, je pense que ça, mentalement, psychologiquement, c'est important de garder cette rage de vaincre. Et forcément, quand c'est ton premier titre comme ça, après 22 ans, alors les gamins d'Arsenal, je dis les gamins parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs ouais. là-dedans. Bien sûr qu'il y a 22 ans, il y en a beaucoup, ils étaient pas nés ou ils avaient 2-3 ans. Donc, ouais. En effet. Mais par contre, donc ils l'ont pas connu ça, cette période où Arsenal ne gagne plus. Mais dernièrement, en effet, ils étaient à la recherche de ça. Et gagner ensemble, ça te renforce. Et puis, ils font une année incroyable. Moi, je veux bien qu'on me dise que Arsenal a des problèmes, que Arsenal, c'est moyen, que le PSG est largement supérieur à Arsenal. Oui, ok. Écoute, si les gens veulent minimiser la saison d'Arsenal, il n'y a pas de souci. Moi, je ne fais pas partie de cela. Parce que, encore, c'est sûr que le dernier match, quand ils gagnent contre Burnley, ils ne les écrasent pas. Il gagne 1-0 sur un coup de pied arrêté, pas de problème. Mais il y a une rage, une rage de vaincre. Ils refusent de perdre, ils défendent. Et là, je suis d'accord avec Julien. Je suis d'accord avec Julien. Saliba, c'est l'année de la maturité. Mais franchement, il est énorme. Saliba, il coupe les actions, il fait tout, il est les premiers relanceurs, il vient les couper, il gagne ses duels. Franchement, c'est monstrueux. Rappelle-toi ce qu'on disait sur Van Dijk il y a une époque avec Liverpool, à juste titre. Van Dijk, c'était le meilleur défenseur du monde. Mais je pense qu'il a donné il a pris le relais, hein, Saliba. Il est incroyable. Donc lui, il a transformé défensivement et l'état d'esprit du groupe. Il faut pas avoir peur de le dire. Et puis après, je te dis, il y a des signes qui ne trompent pas. T'as la réussite. Comme par hasard, c'est l'équipe la plus performante sur les coups de pied arrêtés.
Ouais.
Surtout encore en première ligue, pas forcément Ligue des Champions, mais surtout en première ligue. Ben oui, mais c'est une question de mentalité en fait. Et quand t'as cette rage là et que t'as gagné le plus beau titre pour eux. Attention, ils vont arriver très très solides. Il va falloir que le PSG, moi j'ai pas de doute, le PSG sera solide, mais il va falloir les respecter comme il le doit, comme on le doit.
Non, mais comme tous les là, je reviens sur ce que tu disais aussi. Grâce à ce titre là, ça va les galvaniser parce que bon, je vais pas non plus me comparer à eux parce que c'est un autre niveau. Mais je me souviens, nous, quand je suis arrivé à Marseille. Ça faisait 17 ans, ils n'avaient pas gagné un titre. On a gagné la Coupe de la Ligue.
Ouais.
Et c'est vrai que le fait d'avoir gagné cette Coupe de la Ligue.
T'as gagné le championnat derrière.
On a gagné le championnat derrière. Ça nous a galvanisé. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que je voulais rebondir sur ça? Mais, pour revenir à ta question, bien sûr que ça va changer beaucoup de choses, notamment sur le plan physique, mental, émotionnel, parce que cette saison, mentalement, ils ont quand même souffert entre guillemets.
Parce que ça fait
de laisser échapper le titre
exactement une deuxième fois ou une troisième fois.
Ouais.
Parce que les années précédentes où ils ont dominé le championnat et à la fin tu te refais remonter, c'est dur mentalement.
Ouais, ah oui, faut s'en remettre.
C'est très très dur mentalement. Ouais. Et là, le fait.
Et ça peut expliquer, Soulé, je te coupe, excuse-moi, mais ça peut expliquer la fin de saison un petit peu en dents de scie. Déjà, ils ont eu beaucoup de blessures de joueurs importants et surtout se poser des questions, de se dire, comme toute la presse le disait, et Julien te le disait, les discours,
ils vont encore
finir deuxième, ils vont encore tout perdre.
Ouais, moi, le premier qui disait ça, en plus, je me rappelle, j'avais une conversation avec Johan Djourou qui disait encore une fois, allez, ça y est, il me fatigue. Parce que moi, moi, je suis fan de Arsenal depuis Ian Wright. Donc c'est vrai que ça me faisait mal à chaque fois de voir Arsenal se faire remonter. Mais revenons à la question où tu disais ça va changer. Mais bien sûr que ça va changer. Parce que comme je disais, physiquement et surtout Arteta va avoir le temps
de préparer le Paris Saint-Germain.
Et oui, c'est ça, le match de ce week-end.
Il va laisser souffler.
Ouais. Vous voyez pas du tout de décompression à Arsenal. Ça y est, on est allé chercher un grand titre.
On va faire attention peut-être à...
Paris est en mission, contrairement à Arsenal.
Il y a l'excès d'euphorie, peut-être. Mais arriver à ce niveau-là...
C'est une finale de Ligue des Champions.
Arriver à ce niveau-là, tu peux pas.
Jean-Michel, la décompression.
C'est vrai que c'est un gros handicap pour... Je m'adresse à Benoît, c'est un très gros handicap d'être champion d'Angleterre 10 jours avant la finale de la Ligue des Champions.
Ça va leur faire un mal terrible, fallait mieux le perdre, le titre.
Il fallait mieux le perdre, le titre. Non, mais le problème, je pense que ça ne peut leur faire que du bien. De là à inverser totalement les pronostics, je n'y crois pas complètement, parce que je reste quand même sur les performances. Alors, évidemment, je vais dire, le Paris Saint-Germain a été battu avec une équipe bis par le Paris Football Club dernièrement. Mais pour le titre et un match qu'il devait absolument gagner, j'ai regardé le match contre Burnley qui est d'ores et déjà relégué en division inférieure. Ils ont gagné péniblement 1-0. Ça a été très, très, très compliqué. Vous me direz, Manchester, ils ont perdu les points dans un match aussi décisif. Ouais. Ça veut dire quand même que de tous les côtés, les organismes sont touchés.
Ah oui.
Et faire des pronostics aujourd'hui en disant celui-ci va gagner à coup sûr ou celui-ci va perdre à coup sûr, je pense que les gars... parce qu'ils ont des saisons à rallonge, parce qu'ils ont empilé les matchs, je crois qu'ils sont un petit peu carbo, tous les uns que les autres, et que ça risque de se jouer sur la fraîcheur, je ne sais pas. Et là-dessus, je vais juste rajouter un truc, il me semble quand même que c'est plus facile, quand tu es cuit dur, de défendre et de bien défendre, et de ce côté-là, l'avantage. Vous savez de quel côté il est.
Arsenal est
un petit peu du côté d'Arsenal. Est-ce que ça suffira devant l'armada parisienne? J'en sais rien. Mais incontestablement, hier, ça leur a fait un bien énorme d'être champion sans même jouer, sans même lutter. Ouais. Voilà, c'est sûr que c'est tout bonus.
Donnons la parole à Fabien, supporter d'Arsenal, Jérôme, au 32-16.
Salut Fabien.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Bienvenue Fabien. Bon,
salut Fabien. Alors
déjà, je pense que bravo. Tu es très heureux, bravo, après 22 ans d'attente.
Hier soir, j'ai fait que chantonner North London Forever.
Bon, écoute, c'est bien des moments comme ça de joie. Et
surtout après 22 ans.
Bah ouais, profites-en parce que le 30, ça ne sera pas comme ça. Hein.
Alors, justement, j'ai écouté attentivement tout
Est-ce
ce que vous avez dit.
Est-ce que ça change tout alors?
Et alors moi, oui, ça change tout parce que je pense que le 30, on va retrouver le Arsenal début de saison. Quand cet Arsenal-là jouait décomplexé.
Eh oui.
Le problème d'Arsenal, et j'avais déjà appelé RMC pour parler de ça, en fait, le problème d'Arsenal, quand ils sont stressés, c'est Arteta. Arteta est un très bon entraîneur, mais il arrive à envoyer un stress à son équipe qui se ressent après sur le terrain.
C'est vrai que l'attitude est dingue pendant les matchs.
Quand vous avez regardé le match de Burnley.
T'as raison.
Regardez le match contre Burnley. Le match contre Newcastle. C'est une équipe, une fois qu'elle marque, qui joue avec un stress.
Ouais, ouais.
Et le stress, il part de l'entraîneur.
Ouais, il est communicatif de la part d'Arteta, ça c'est sûr.
Ça part d'Arteta. Ça se communique aux joueurs et après ça part dans tout le stade. Tout le monde a les dents serrées. Tout le monde attend la 90e minute pour se détendre. Alors qu'en début de saison, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Parce qu'en début de saison,
ouais, mais Fabien, moi,
12 points.
Fabien, bien sûr que l'entraîneur, c'est le chef d'orchestre, il peut te renvoyer du stress ou quoi que ce soit, ça, ou de l'excitation.
Mais c'est quelque chose qui était reproché à Arteta. Mais reproché à Arteta et tout.
Oui, mais n'empêche que... Après, les joueurs, on a été sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est que tu sais, l'entraîneur, il a beau s'exciter comme il veut sur le côté, c'est toi qui dois te prendre en main. Et moi, je pense...
Je suis entièrement d'accord avec toi, Jérôme.
Je pense qu'il y avait une telle attente et une telle avance au bout d'un moment que...
Pour les supporters d'Arsenal, la première ligue était plus importante que la Ligue des Champions. Hein.
Mais Fabien, avec l'histoire et les retournements de situation qu'a connu Arsenal ces dernières années, alors qu'ils devaient, je ne dirais pas qu'ils avaient un boulevard devant eux pour être champions, mais ils ont manqué des occasions.
Non, on a failli le perdre.
Je pense. Comment?
Toi, tu nous as fait
et par
peur.
Contre, je pense que cette année, ils ont cassé le plafond de verre.
Mais en fait, de temps en temps, ils devaient y penser, Arteta, tu vois, sur le bord de la touche.
Ouais. Je vous pose une question à tous.
Contre, le plafond de fer, c'est Banu Petit.
Ouais, c'est vrai, exactement. L'embrasse. Quelle est la position la plus enviable, la voix verrée. Jérôme, d'après toi, tu préfères être à la place de qui? Des Parisiens aujourd'hui ou des joueurs?
Des Parisiens tous les jours.
Des Parisiens.
Mais tu sais pourquoi je te dis ça?
Pourquoi?
Parce que, j'ai vécu cette finale-là, j'ai eu la chance de la vivre une fois seulement, mais, et je l'ai déjà dit, mais ça m'a tellement marqué que c'est tellement la plus belle des finales à jouer, qu'il y a un stress qui se met en place, déjà médiatiquement, tout ce que tu veux mettre en place. La première finale de Ligue des Champions, c'est quelque chose d'hallucinant. On te prévient, mais quand tu le vis, c'est incroyable. C'est des demandes de médias de partout. Je me souviens, individuellement, on en avait 100 des demandes de médias. Ça venait de partout dans le monde. Ouais. Tu vois, donc, ce que je veux dire, tu le ressens avant, dans la préparation du match. Tout le monde, tous les projecteurs, ils sont sur ce match-là. Donc, t'as un stress et une pression qui est démesurée par rapport à ce que tu peux vivre sur un match classique.
Et il vaut mieux l'avoir déjà vécu.
Et quand tu ne l'as pas vécu, tu peux te faire surprendre. Alors des fois, il y en a.
L'avoir vécu et surtout l'avoir gagné.
Oui. Et oui, c'est ça. Non,
oui.
Mais je pense
c'est
que
c'est la grande différence entre Arsenal et le Paris Saint-Germain.
En plus,
au coup de ces sifflets.
Tu as raison. Mais les joueurs, ils la connaissent, cette pression-là, et en plus, comme tu le dis, Jean-Michel est saoulé, ils l'ont gagné, le PSG. Ouais. Donc, t'arrives avec une confiance en toi qui sera pas un excès de confiance, parce que, encore une fois, c'est la finale avec des champions. Ouais. Mais il n'y a aucun joueur du PSG qui va se dire, en rentrant sur le terrain, oh, on l'a déjà gagné, oh, c'est pas grave si on la perd. Non.
La question
non,
sera
non,
posée.
Non, mais après, c'est dans les deux sens aussi. Je vois ce que tu veux dire, mais ça peut être bien aussi pour Arsenal qui a pas connu ça.
Ouais.
Tu vois.
Ils vont découvrir ça
et ça peut les exciter
mais
aussi.
Mais ça peut inhiber certains aussi.
Ouais, mais bon, je pense pas en Ligue des Champions comme ça.
On leur souhaite.
Merci Fabien. Merci
on te le souhaite.
Fabien qui est venu au 32-16.
Soulé.
Non, mais ça peut exciter. Un truc que tu connais pas. Ça excite.
Je sais que quand tu connais pas, tu vois.
Vous entendez cette petite musique? C'est la musique de la Coupe du Monde sur RMC. RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Avec notre jeu, la liste des 26 cadeaux pour profiter de la Coupe du Monde. C'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter l'un des packs cadeaux Coupe du Monde avec des vidéoprojecteurs, des écrans, des barres de son, des maillots de l'équipe de France. Vous venez sélectionner un joueur dans la liste des 26. Il faut envoyer liste par SMS au 732-16. Liste au 732-16. Il est 18h27. Vous avez jusqu'à 18h32 pour envoyer liste au 732-16.
C'était pas de Ian Wright que t'étais fan. Ouais. T'étais fan de Dixon derrière.
Ah ouais. Non,
un bon défenseur.
Je vois de qui tu parles.
Tony Adams.
Qui buvait pas de Tony Adams, qui buvait pas du tout.
Il buvait pas d'eau.
Il était d'une sobriété dans le jeu et ailleurs.
Allez,
dans un instant.
Tony,
le procès de Paul Fonseca. De la 4ème place avec l'Olympique Lyonnais. A tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h33 sur RMC, la deuxième demi-heure de Roten sans flamme. Exceptionnel ce soir, extraordinaire demain. Donc soyez là avec l'interview de Ousmane Dembélé à partir de 18h. On vous attend, mais restez bien avec nous. On est là jusqu'à 20h. Vous allez avoir quelques petites pépites dans 10 minutes. Les coulisses de l'interview. On est avec Soulé Diawara, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron. Là, on va faire un bon procès.
Ouais. Et puis à 19h, Roten examinateur. Hein. On va parler de l'AS Monaco. On a des choses à dire sur Monaco.
Là.
Est-ce que Monaco doit tout changer cet été?
Le rocher va trembler.
Sera là.
Ça, c'est une vraie question, notamment. Oh. Et quelle note Jérôme va mettre sur 20 à la saison de Monaco?
Ça va pas être le 18 ou 19 de Paris ou le 16 de Lyon.
A priori, non. Allez, on y va pour
plus. Il va y avoir un peu de
RMC, Roten sans flamme.
Comment votre équipe a pu en arriver là, Guy?
C'est pas le moment de faire de philosophie. Hein.
Vous paraissez découragé, Guy.
Non, pas du tout, mais vous m'emmerdez. Je vais pas faire un papier d'ambiance, etc. On parle du match de Metz, non?
Le procès de Roten sans flamme.
Il était bon. Oh, vous m'emmerdez.
C'est pas le moment de faire de la philosophie. Quoi.
Heureusement qu'on a coupé parce que c'est Lionel qui s'en prenait après.
Non, mais...
Au charbonnier.
Exceptionnel. Alors, Paulo Fonseca a défendu son bilan.
T'as des gants, t'as des moufles
ce matin. Lyon a terminé 4e de Ligue 1 à un point du podium. Lyon, c'est la belle surprise de la saison avec cet effectif totalement remodelé. Un club qui a frôlé la descente en Ligue 2. Je vous cite Fonseca ce matin. Je savais que ça serait compliqué, je connais mon équipe. Peut-être n'avions-nous pas l'expérience pour affronter ces instants de pression. J'ai senti que nous n'étions pas suffisamment forts mentalement. Notre effectif était moins fourni que celui des concurrents. J'accepte la frustration, mais on ne pouvait raisonnablement pas faire mieux. C'est pas facile. Que cette 4e place. Ah, donc voilà. Il justifie la 4e place. Lyon ne pouvait pas faire mieux.
Tout donné, Benoît.
On rappelle que Lyon a terminé la saison par 2 défaites. Une à Toulouse, 2-1. Et la dernière contre Lens le week-end dernier, 4-0, Lens qui a aligné une équipe bis pour préparer la finale de la Coupe de France. Ouvrons donc le procès de Paulo Fonseca qui se contente de la 4e place avec un seul procureur ce soir, c'est Jean-Michel Larquet. Bonsoir.
Bonsoir.
On a 2 avocats pour Paulo Fonseca. Ouais. Souleymane Diawara, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir.
Et le verdict sera rendu par Romain au 32-16. Salut Romain.
Bonsoir à tous.
Vas-y Jean-Michel.
C'était Arsène Wenger, il serait pas condamné. Hein.
Oh, arrête. Allez. Avec Wenger, tu vas pas remettre une pièce dans le jukebox Larquet.
Jean-Michel, c'est vrai que Fonseca a gagné 5 ou 6 titres avec Arsenal.
Voilà,
c'est
exactement. Vrai,
c'est mais bon, c'est.
Bon Jean-Michel, le discours de Fonseca, ça t'a pas trop plu, toi?
Mais ça me plaît pas parce que si j'étais, j'essaie modestement de me mettre à ma place. Et moi, je serais fou de rage de pas avoir obtenu cette 3e place à laquelle j'ai été pendant la majorité du championnat, ou en tout cas au cours de la 2e partie. Ils étaient passés devant Marseille, ils se sont fait repasser devant par Marseille. Après, ça a été Lens qui était loin devant. Mais je serais fou de rage. Et honnêtement, malgré tout ce que je reconnais comme qualité à cet homme-là, je sentais qu'on n'était pas assez fort mentalement. Si t'es fort mentalement pendant 32 matchs, et tu dois espérer être fort un 33e match à Toulouse ou même un 34e match à domicile pour arracher la place de directe de qualification en Ligue des Champions. Je n'arrive pas à comprendre. Je salue le travail de Fonseca. Oui. Je comprends qu'à la sortie, mais je n'arrive pas à imaginer que il soit fou de rage à la fin de cette compétition en se disant on est passé quand même tout ou près de la montre en or avec une qualification directe. Et je ne reconnais pas même Fonseca dans ces propos-là. Voilà, le Fonseca qui était toujours positif dans ses discours, même quand il a pété les plombs à un moment donné. Je ne le reconnais pas dans ce discours-là. C'est aussi simple que ça.
Mais non, mais Jean-Mi, quand même. T'as suivi le championnat ou t'as pas suivi le championnat? T'as vu d'où ils sont partis, Lyon?
Non, mais évidemment que je n'ai pas suivi le championnat et que je ne sais pas d'où ils viennent. Évidemment, évidemment qu'ils n'ont pas eu de problème d'effectif, qu'ils n'ont pas eu de problème d'argent, qu'ils n'ont pas eu de problème de John
Textor.
Je le sais, évidemment, je ne le sais pas tout ça.
Mais c'est d'où il vient.
Je l'ai découvert vers 17h30.
C'est côté Saint-Etienne, non? Mais il sait d'où il vient. Ils ont vendu en début de saison leur attaquant Mukotadze. Ils ont eu le problème avec la DNCG.
Ah
ils
bon
ont
failli descendre. Ça, je savais
non,
pas.
Mais,
ça,
non, mais je peux te dire. Ils ont eu la blessure de Fofana. Il y a plein
Je ne savais pas non plus.
C'est pour ça que Fonseca, avec tous les péripéties par où il est passé, il est content d'arriver là. L'effort qu'il a fourni en 2e partie de saison, je crois, où ils font 13 victoires d'affilée, ça demande beaucoup d'efforts. Et il n'a pas l'effectif pour ça. Il n'avait pas l'effectif pour ça aussi. Donc,
Mais moi, je suis un fou de rage de ne pas avoir
été coupé comme ça.
Ouais, c'est vrai, ça, d'ailleurs.
Oui, j'ai le droit. Oui, j'ai le droit. On débat. On débat. Avec Soulé, j'ai le droit. Avec toi, j'ai pas le droit.
Non, mais c'est pour ça, parce qu'il revient de loin. C'est pour ça que moi, son article-là, ça me gêne pas, parce que il sait, au fond de lui, comment il a galéré pour arriver là où il est.
Que vous étiez des winners.
Non, mais arrivé à un moment donné, lui, il a la tête sur les épaules. Il a la tête sur les épaules. Il sait qu'avec l'effectif qu'il a, il a été au bout de, au bout. Il a été au bout de, au bout.
Du bout.
Et voilà. Donc, tu peux pas.
Au bout du bout, c'était la troisième.
Non, mais t'es choix un point. Mais il était au maximum. Il était au maximum. Il était au maximum. Il a fait le maximum avec ce qu'il avait. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Mais arrivé à un moment donné, il a la tête sur les épaules, il sait que voilà, il a fait le maximum. Là, il a construit pour l'année prochaine. On verra l'année prochaine.
Je suis extrêmement déçu. Je croyais que tu étais.
Il faut être réaliste.
Tu sais quoi, je vais compléter tes dires avec le mot frustration. Il a raison, Fonseca. C'est de la frustration aujourd'hui. La frustration parce qu'en effet, s'ils avaient gagné ce match avec la défaite de Lille, ils étaient direct en Ligue des Champions. Mais après, il y a la lucidité, comme le dit Soulet, de voir qu'en début de saison... En fait, moi, c'est simple. Quand tu fais le bilan d'une année, et c'est ce qu'on va faire sur Monaco à 19h, tu te dis, en début d'année, qu'est-ce que t'attends de cette équipe ? C'est quoi les objectifs ? Les objectifs de Lyon en début d'année, c'était pas de finir sur le podium. Je vous le dis tout de suite. Dans la situation du club où ils étaient à deux doigts d'aller en Ligue 2, financièrement parlant.
Je crois que c'est même la première partie du championnat, je crois.
Non, mais c'est pour, et en plus, il y a la Coupe d'Europe qui se rajoute avec un effectif qui est pas pléthorique parce qu'ils pouvaient pas recruter. Au contraire, ils sont perdus Mikotadze le dernier jour du mercato. Tu te dis, là, on leur voit l'enfer. Et puis après, il a réussi à créer un groupe avec des jeunes qui sont arrivés, qui ont progressé. Alors, le problème de la jeunesse, on le connaît, on l'a vécu aussi, hein. Moi, je veux pas leur tomber dessus. C'est que tu progresses très vite et au bout d'un moment, t'as peut-être une période, en effet, où t'es un peu moins bien parce que t'es pas adapté à jouer autant de matchs, mais t'es obligé de le faire parce que il y a des blessures de joueurs importants à Lyon qui sont arrivés. C'est vrai. Et donc, ils ont battu des records, comme l'a dit Soulet, 13 matchs de suite, 13 victoires. Après, il y a eu une période de décompression où ça tournait moins bien pour eux. Ils sont repartis quand même. Ils sont repartis.
Jérôme, tout ce que vous dites est exact.
Et bien c'est...
Je serai à la place de Fonseca et je veux pas y être parce qu'ils font un métier que je suis pas capable de faire, Jérôme. Je te dis simplement que si j'étais à la place de Fonseca, aujourd'hui, je dirais, je suis fier de mes joueurs. On a fait quelque chose d'inespéré. Mais je suis fou de rage.
Mais c'est de la frustration, mais il le dit.
Il se contente de la quatrième place.
Voilà ce que je dirais.
Jean-Michel, déjà, on n'est pas dans sa tête ni rien. Lui, il fait une analyse à froid comme ça. Il se dit, en effet, la frustration des gens, des supporters, des joueurs, même lui, au fond. Tu crois que dimanche soir, quand il perd 4-0 chez lui et qu'il regarde le résultat de Lille, il se dit, il n'est pas frustré, Mais parce que il défend son bilan. Pourquoi ? Parce que son bilan, il est exceptionnel. Ce qu'il a fait cette année.
Mais tout le monde le connaît.
Et c'est pour ça que je te dis, pour faire un bilan et aller dans son sens.
Mais les supporters de Lyon le reconnaissent. Non, mais
pour aller dans son sens, au lieu de dire oui, on est énervé, on a des regrets, des soucis, il essaye de garder du positif comme il a fait tout au long de l'année, tu l'as dit, et en se disant, voilà, et je finis là-dessus moi, en début d'année, si on nous avait dit on va finir premier du groupe d'Europa League,
on peut jouer la Ligue des Champions,
on va faire un quart de finale d'Europa League, on va faire rêver les gens, on va leur amener de l'émotion, on va faire demi-finale, alors oui, c'est qu'une demi-finale de Coupe de France,
mais 13 victoires d'affilée,
demi-finale où on va croire qu'on peut gagner un trophée et on va lutter jusqu'au dernier jour pour le podium de Ligue 1, mais ils auraient signé tout de suite.
Bien sûr. Alors,
voilà, donc une Romain place en Conférence Ligue en début d'année, ils auraient signé tout de suite.
Alors, Romain rend son verdict. Vas-y, Romain, qui remporte ce procès ?
Mais il n'y a même pas photo, je veux dire, c'est évident. C'est Jean-Michel Larqué qui gagne le procès.
Tu défends
Fonseca, mais c'est fou, je comprends pas, je t'écoute tous les jours.
Mais je défends parce qu'il est monstrueux.
Mais parce que vous vous rendez pas compte, en fait, le travail qu'il a effectué.
Il avait pas
vu venir. Vous vous rendez pas compte le travail qu'il a fait.
C'est pas objectif avec Fonseca.
Mais pourquoi ?
Regarde, l'année dernière, après le 5-4, après l'émission, je t'ai écouté, t'as dit, c'est pas de sa faute. Ça aurait été Pierre Sage, ça aurait été une catastrophe. Avoue que Pierre Sage est meilleur que Fonseca.
Mais,
non, pas d'accord.
Mais si. Ben oui, sur cette année, Pierre Sage est meilleur que Fonseca, on est d'accord.
Mais même l'année dernière.
L'année dernière.
Oui, mais même.
Il était où l'année dernière, Pierre Sage?
Chaque année, avec Lille, il était au pied de la Ligue des Champions, il n'arrivait pas. Il y a peut-être, dans sa méthode, en fin de saison, il n'arrive pas à gérer les fins de saison. Je ne dis pas que c'est un mauvais entraîneur, mais tu es obligé d'avoir des regrets de ne pas avoir la Ligue des Champions.
Mais peut-être qu'il n'a pas l'effectif.
Mais si, il a l'effectif.
Si tu n'essayes pas de le rattraper, tu as déçu Jean-Michel Larquet.
Donc Romain, merci.
Attends, bonjour Mimi.
Je suis très déçu. Ça m'a gâché la soirée.
Romain, aujourd'hui, tu dis qu'il a l'effectif. En début d'année, il n'y a personne qui disait qu'il a l'effectif. Parce qu'il a fait progresser des joueurs.
Jérôme, une fois que tu y es,
mais arrêtez.
Mais le raisonnement il tient pas.
Non, c'est avec Lens.
Donc Lens, s'ils n'avaient pas été qualifiés pour la Ligue des Champions, ils avaient fait
l'Europa. Là, j'en veux à Romain qui écoute Rotten sans flamme tous les jours, c'est qu'il dit je manque d'objectivité.
Oui.
Moi,
oui toi.
Moi, je manque d'objectivité.
Oui toi, Jérôme Rotten.
Non mais franchement. Et moi, vous allez dire que je fais des fixettes.
Oui toi, Jérôme Rotten. Merci Romain.
Pas du tout.
Sans appel. Victoire de Jean-Michel Larquet.
Merci Romain, t'es un grand supporter lyonnais.
Allez dans un instant, allô Jérôme. On va vous livrer les coulisses de l'interview d'Ousmane Dembélé. On l'a rencontré cet après-midi, le Ballon d'Or.
Et on est totalement objectif sur Ousmane.
Et vous entendrez ses premiers mots. Allez, à tout de suite.
La planète foot.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h47 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. Les 10 dernières minutes de la première heure avec Soulé Diawara, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron. On se régale depuis 18h. Après 19h, on fait le bilan, l'appréciation, mon appréciation de l'AS Monaco.
Rotten examinateur.
Oui, donc
est-ce que l'AS Monaco doit tout changer cet été?
Le rocher va trembler. Le
supporter monégasque, tout à fait. Ouais. Et ce qu'on retient des 40 premières minutes de Rotten sans flamme, c'est que malheureusement Jean-Michel Larquet est très déçu par Souleymane Diawara. Voilà. Tu as baissé dans son estime. Ouais. Allez, écoutez,
non,
pourquoi
c'est
un grand procès.
C'est moi Jean-Michel.
Je sais que tu vas te rattraper. Je sais que tu vas pas rester sur une mauvaise impression comme ça, c'est normal. Tu vas te rattraper, j'en suis sûr.
Allez, là, tu vas être habitué, hein. Tu sais, les fixettes de Jean-Michel. Ah ouais,
Et maintenant, il t'a dans le nez, alors là, il va plus te louper. Hein. Méfie-toi.
Et je crois que l'élève a dépassé le professeur.
Ouais, ça, c'est possible.
Ça, je vous le dis.
Ah bon?
Aucun problème, là.
Allez, tout de suite, prenons les nouvelles.
Je ne cite personne.
RMC, Rotten sans flamme.
Sur le côté gauche, il va entrer dans la surface de réparation de Kvaratskhelia. Il y a du monde en retrait. Dembélé, le but, l'ouverture du score parisien. Ousmane Dembélé,
Ousmane, ballon d'or.
Intérieur du pied gauche, sous la main transversale. Paris, clinique, Paris, devant. 3 minutes de jeu et 1-0.
Allô Jérôme.
Un événement exceptionnel vous attend demain dans Rotten sans flamme sur RMC. Un entretien exclusif avec le meilleur joueur du monde, le Ballon d'Or, dernier Ballon d'Or en titre, Ousmane Dembélé, qui nous a accordé plus de 40 minutes d'interview cet après-midi au centre d'entraînement du PSG. Jérôme, c'est grâce à toi en tout cas, donc on te remercie pour ce moment exceptionnel.
On a un travail d'équipe.
On est à 10 jours de la finale de la Ligue des Champions. On a abordé tous les sujets avec Ousmane Dembélé. Vous allez vous régaler donc pendant plus de 40 minutes demain. Certains sujets sont plus importants que d'autres et plus urgents. Vous savez que Dembélé est préservé pour la séance d'entraînement aujourd'hui. On va vous livrer les coulisses dans un instant, mais on peut écouter un premier son, Jérôme, parce que justement, Ousmane Dembélé donne des nouvelles de son état de santé. Écoutez.
Voilà, j'ai eu une petite alerte face au PFC, mais ça va. J'ai eu tellement de petites alertes ou de grosses blessures dans ma carrière, que ça soit ici au Paris Saint-Germain ou même avant, surtout les grandes échéances qui arrivent, surtout cette finale surtout. Donc non, j'ai préféré m'arrêter et pas prendre de risques surtout. Ça va le faire pour
la ça fin. Va tu penses que tu seras 100%
oui je pense oui ça va le faire, donc j'ai pas de doute sur ça. J'espère être sur le terrain le 30.
Première nouvelle rassurante.
Voilà. Prendre la maturité encore. Hein,
exactement.
Tu vois, ouais. À l'époque, je pense que même cette petite alerte, ça ne l'aurait pas empêché de
faire
le match.
Il aurait continué.
Et là, tu vois que il grandit, il prend de l'expérience. Et c'est très bien pour lui et surtout pour le Paris Saint-Germain.
Comment tu l'as trouvé, Jérôme? On l'a rencontré cet après-midi. Tu l'as trouvé apaisé, déterminé, concentré?
Oui. Bah, sûr de lui, sûr d'eux, parce que il parle beaucoup du collectif. Mais ça, je suis pas étonné, parce que il a une telle simplicité, vraiment. Quand tu sais que c'est le meilleur joueur de la planète foot
et qu'il arrive, tu vois, moi, il y a des signes qui trompent pas, tu vois, il y avait beaucoup de monde dans la salle, tu vois, le respect qu'il a, c'est essentiel, l'éducation qu'il a. Pour moi, ça veut tout dire. Après, le reste, on l'aime, on l'aime pas. Les affinités, tu les as ou tu les as pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié, déjà humainement, dans la vie. Et puis surtout, après, le footballeur. Parce que quand tu le vois ballon au pied, la vérité, c'est que déjà, tu sais pas s'il est droitier ou gaucher. Même lui, je crois qu'il le sait pas. Mais ça, c'est une performance. Et puis quand tu vois ce qu'il est capable de réaliser... franchement, lui avec ses coéquipiers, donc non, je l'ai trouvé très bien, et surtout pas de doute sur sa blessure. Moi, je m'inquiétais un peu là-dessus parce que quand t'as des alertes et on les a, et surtout au mollet, quand ça
lui
tire comme ça.
Lui qui a des antécédents dans cette zone.
Oui, tu te dis est-ce qu'il est allé trop loin, est-ce que ça a trop tiré. Là, non, il est rassurant, donc y a pas de problème.
Ça, c'est la meilleure nouvelle possible, Souley et Jean-Michel, pour le Paris Saint-Germain, hein, d'avoir Ousmane Dembélé qui se sent apte pour la finale de Ligue des Champions.
Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour lui, pour le Paris Saint-Germain, pour les fans de foot, de voir Ousmane Dembélé être à 100%. On sait que quand il est à 100%, on connaît les qualités d'Ousmane Dembélé. Donc, c'est sûr que moi, en tant que fan de foot, je préfère voir un Ousmane Dembélé à 100% parce que je sais qu'il est capable de me faire lever de ma chaise, ouais, tu vois.
Ça, c'est sûr.
Donc, c'est sûr que c'est rassurant.
Jean-Michel, ouais, c'est rassurant pour la finale quand même.
Ah bah c'est une très bonne nouvelle parce que celui qui lui a succédé lors du dernier match de championnat, bon, il vaut mieux qu'il soit remplaçant et qu'il rentre le dernier quart d'heure plutôt que d'être titulaire au début de la rencontre. Ramos. Parce que j'ai pas été très très convaincu par l'implication de ce garçon dans la fin de saison du Paris Saint-Germain. J'ose espérer me tromper. En tout cas, autant quand il rentre dans le dernier quart d'heure, on peut considérer que parfois c'est une injustice qu'il ne joue pas plus longtemps. Mais quand il joue plus longtemps, il n'en pique pas une, quoi. C'est même au-delà, puisque j'ai même petite question d'attitude qui m'a fortement.
Tu l'as dans le nez, Gonzalo Ramos, depuis ce match.
Je te parle de son dernier match.
Ouais, bien sûr.
Qui est le match qui précède la finale de la Ligue des Champions. Il n'y en a pas d'autre, hein, à moins non. que tu.
Ah, il y a une opposition entre les joueurs de l'équipe professionnelle.
Il y a des entraînements aussi.
Exactement. Alors, beaucoup de sujets ont été abordés avec Ousmane Dembélé. Honnêtement, il se livre sincèrement sur tous les sujets, sur l'équipe de France, sur son avenir, sur son rôle aussi en équipe nationale, sur sa relation avec les autres et sur sa soif de titre. Vous allez l'entendre, il est Ballon d'Or, il vient d'en décrocher un. Il y a peu de Français qui ont eu la chance et l'honneur de décrocher cette distinction. Un seul en a gagné plusieurs, c'est Michel Platini. Est-ce qu'il est motivé comme ça à aller chercher un deuxième Ballon d'Or et à aller chercher encore plus de titres? Écoutez la réponse de Dembélé.
Ça me donne envie de continuer après tout ce que j'ai vécu, que ce soit collectivement ou personnellement. Il faut continuer, j'ai encore très faim, je veux gagner des titres. Que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec la sélection, j'ai encore beaucoup de choses à montrer. Et puis quand tu prends goût à tout ça, t'as envie de regagner. Ouais, c'est ça, ouais. T'as envie de regagner. Et voilà, je fais tout pour. On me challenge beaucoup, que ce soit mes amis, mon agent aussi, il me challenge beaucoup. Et voilà, il dit, faut pas être rassasié sur un ballon d'or. Au début, il disait, un ballon d'or, c'est bon. Il a commencé à dire, pourquoi pas deux ballons d'or? Deux ballons d'or, etc. Et puis voilà, non, t'es franchement, dès que tu goûtes à tout ça, t'as envie de rester en haut.
L'entretien exceptionnel, donc, avec Dembélé, Souley. Ouais.
La mentalité des joueurs exceptionnels. Et il le sait. En plus, lui, il a quand même galéré un peu avant le Paris Saint-Germain. Ouais, ouais. Notamment, il a été gêné par les blessures.
Ouais.
Et là, il est en pleine possession de ses moyens et il réalise de belles choses avec son équipe du Paris Saint-Germain. Il a goûté à la Ligue des Champions. Le championnat, il a goûté aussi, mais il a goûté au Ballon d'Or et il sait l'effet que ça fait. Et en tant que compétiteur, quand tu goûtes une fois à ça, t'as envie d'aller chercher le deuxième ou le troisième, même si ça va pas être évident. Mais c'est un compétiteur, c'est un grand joueur et il a raison. il a raison.
Et il est dans la course, en tout cas.
Et il est dans la course, en plus.
C'est la finale de Ligue des Champions.
Il y a la Ligue des Champions. Et s'il va loin, s'il va loin avec la Coupe de, la Coupe du Monde.
Exactement.
Après la défaite contre le Sénégal. Enfin,
la victoire. Ça chauffe déjà France-Sénégal avec Soulé, qui sera avec nous pendant la Coupe du Monde. Cet entretien exceptionnel avec Ousmane Dembélé, retrouvé demain 18h dans Rotten Sans Flamme.
Demain 18h, vous saurez tout.
Et disponible sur les plateformes, hein, sur YouTube, la chaîne Rotten Sans Flamme aussi.
Le PSG, son avenir, l'équipe de France, tout a été abordé. Et la réponse sans filtre, c'était génial.
Rendez-vous demain et dans un instant, on continue notre opération Rotten Examinateur. Est-ce que l'AS Monaco doit tout changer? 32-16 pour en débattre avec nous. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.